Le chef lui dit, allez, boxe sur gauche et c'est les pires. Faut que t'apprennes à boxer droitier. Y'a que ça qui pourra dérouter Apollo.
Non, c'est trop tard pour apprendre à boxer droitier maintenant.
Frappe ça sans poids sans une poche.
Je vais me servir de l'autre.
Ah, si tu fais ça, moi je te le coupe. J'espère que c'est clair dans ta tête.
Et on a même du Rocky 2 dans la tête au carré aujourd'hui pour parler, s'il vous plaît, latéralisation du cerveau à la une de la science, Axel Villard.
Oui, boxer droitier, boxer gaucher, crier ou pleurer, où s'activent les neurones en fonction des situations. Depuis 20 ans, les IRM fonctionnels ont permis d'enregistrer le cerveau sous toutes les coutures. Et aujourd'hui, une équipe de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière a décidé de reprendre ces travaux pour dresser la première cartographie fonctionnelle de la latéralisation du cerveau. C'est difficile à dire.
Oui, c'est pas facile.
C'est la latéralisation.
Voilà.
Et elle est publié cette cartographie dans la revue Nature Communication. Nous sommes avec en studio celui qui a coordonné ces recherches, Michel Thiebaud Deschotten. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS au BCB Lab à Paris. Alors, quand on parle de la latéralisation fonctionnelle du cerveau, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est droite-gauche, c'est tout?
Oui, je vous rassure, toutes les fonctions sont traitées dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. C'est plutôt une dominance des fonctions d'un côté ou de l'autre.
C'est comme la matière et l'antimatière finalement, non? Il y a un petit excédent de chaque
Quelque part, il y a un déséquilibre qui se passe, sauf que certaines fonctions sont plus à gauche et d'autres fonctions vont être plus à droite.
Comment est-ce qu'on s'est rendu compte que le cerveau avait des activités particulières plutôt à gauche ou plutôt à droite?
En fait, il y a deux travaux qui sont séminales pour cette découverte. Il y a le travail de Paul Broca en France au 19e siècle, qui était le premier à rapporter des patients, une multitude de patients avec une lésion du lobe frontal gauche, donc l'avant du cerveau, avec l'incapacité de parler et ne trouvait pas l'équivalent avec des lésions dans l'hémisphère droit. Et puis par la suite, il y a Roger Sperry qui en 1981 a eu le prix Nobel pour la découverte de la latéralisation des fonctions. Il étudiait des patients qui avaient leur cerveau qui était déconnecté, leur hémisphère droit et hémisphère gauche ne pouvaient plus communiquer.
Et ça donne quoi quand c'est le cas?
Eh ben, en fait, ils pouvaient leur donner des objets à reconnaître avec la main droite ou avec la main gauche. Et quand on essaie de reconnaître un objet avec la main gauche, ça va sur l'hémisphère droit, mais l'hémisphère gauche ne peut pas dire quel objet c'est. Donc ils savent ce que c'est, mais ils ne peuvent pas dire ce que c'est.
Alors comment est-ce que vous avez entrepris de construire cette cartographie complète et pourquoi surtout?
À l'origine, on voulait répondre à la question si les fonctions qui sont latéralisées communiquent plus ou moins avec l'autre hémisphère. Parce qu'il y a deux hypothèses opposées sur le fonctionnement du cerveau et la latéralisation des fonctions. Mais pour y répondre, il fallait savoir quelles étaient les régions qui étaient latéralisées et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de carte et qu'on ne savait pas quelles étaient de façon globale dans le cerveau les fonctions qui étaient latéralisées.
Et donc le résultat final, c'est vraiment une carte, c'est un cerveau avec des zones placées dessus, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer?
En réalité, c'est quatre cartes, parce qu'il y a quatre patterns généraux de latéralisation des fonctions. Donc on les a mis dans un espace multidimensionnel. Ça vous dit quelque chose?
Quatre dimensions alors, c'est ça?
C'est un espace en 151 dimensions.
Ah oui.
Mais on a mesuré quelle dimension était grande et significative par rapport aux autres dimensions. Et pour ça, on essaie de mettre des triangles dans cet espace multidimensionnel. Et on en a trouvé quatre qui étaient vraiment significatifs. Et c'était la communication symbolique qui inclut le langage, la perception-action, l'interaction avec l'espace autour de nous, les émotions et de façon surprenante la prise de décision qui était plus dans le lobe frontal droit que dans le lobe frontal gauche.
Alors comment elles se répartissent ces quatre grandes fonctions dans le cerveau? Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit?
Non, justement, elles sont très différentes et c'est pour ça qu'on a réussi à créer cet espace. Donc le langage est bien latéralisé dans l'hémisphère gauche, mais il y en a un petit peu dans l'hémisphère droit. Perception-action, c'est plutôt frontopariétal droit. Émotion, c'est aussi frontopariétal avec un petit peu de temporal droit. Et la décision, comme je vous l'ai dit, c'est dans le frontal droit plus que dans le frontal gauche.
Donc vous obtenez une carte pour tous les êtres humains, ça veut dire que c'est une moyenne?
Il y a
beaucoup de variations d'un individu à l'autre, d'un gaucher à un droitier?
Alors dans le passé, on a travaillé là-dessus sur la perception-action et on a pu voir que ces cartes de latéralisation représentent à peu près 70% de la population et on peut observer des patterns inversés. Pour le langage, l'équipe de Nathalie Tsourio-Mazoyer à Bordeaux a étudié 400 participants, 200 gauchers et 200 droitiers. ils ont pu montrer que chez les droitiers, tous les droitiers ont le cerveau plutôt le langage plutôt représenté dans l'hémisphère gauche, mais chez les gauchers, qui représentent 10% de la population, 5% d'entre eux montraient un pattern complètement inversé, avec un hémisphère droit plus fort pour le langage.
Une antisymétrie
parfaite. Une antisymétrie parfaite.
D'accord.
C'est une étude très
élevée. Ça va intéresser les invités de Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a encore des fonctions qu'on ne sait pas placer dans votre carte ou qui ne seraient pas, du coup, latéralisées?
Alors, il y a deux limitations à cette étude. Il y a le biais des fonctions qu'on explore. C'est-à-dire que, au final, les fonctions, on les a définies en observant les patients qui avaient des lésions et en réfléchissant sur comment le cerveau fonctionne. Mais je pense pas qu'on ait couvert à ce jour toutes les fonctions possibles du cerveau. Et si elles n'ont pas été couvertes et s'il n'y a pas d'IRM fonctionnel, on ne peut pas les inclure dans nos cartes. Donc, il reste des choses à découvrir. C'est plutôt un résumé, en fait, de tout ce qui a été fait à ce jour et en quoi les fonctions qu'on a étudiées jusqu'à ce jour sont latéralisées.
Alors, une carte, c'est avant tout un outil pour d'autres. Est-ce que vous vous attendez à ce que beaucoup de chercheurs se servent de votre travail maintenant qu'il est publié?
Alors, on a mis les cartes à disposition justement pour que les chercheurs puissent construire à partir de ces cartes, voir si la latéralisation qu'ils observent appartient à l'une de ces cartes ou voir si eux-mêmes sont en train de chercher quelque chose qui est original par rapport à ce résumé de tout ce qui s'est passé dans la littérature à ce jour.
Donc c'était votre but aussi.
Merci beaucoup Michel Thiébaud de Chauten pour ces explications, vous qui êtes neuroscientifique, et puis donc nous on va parler asymétrie de la matière dans un instant. Voilà, petite transition. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les pollinisateurs au plus mal au Royaume-Uni. Une étude menée par le Centre National d'Écologie et d'Hydrologie s'est intéressée à 353 espèces d'abeilles sauvages et insectes volants sur 30 ans. Et les résultats, comme attendu d'ailleurs, ne sont pas bons. Un tiers des espèces sont en déclin et la répartition géographique moyenne a diminué de plus d'un quart, ce qui équivaut à une perte sèche de 11 espèces par kilomètre carré. Une étude qui sonne comme un avertissement pour les auteurs qui soulignent l'importance de ces animaux pour les écosystèmes. Les sodas augmenteraient vos chances de mourir jeune, c'est une équipe en tout cas américaine qui conclut en ces termes une étude menée sur 120 000 Américains, suivie sur 30 ans. Les participants devaient tous les 4 ans répondre à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. Et parmi les résultats statistiques à retenir, les consommateurs réguliers donc de soda avec seulement une canette par jour auraient 21% de chances supplémentaires de succomber à une mort prématurée causée par un infarctus ou un AVC. Et puis l'histoire d'une septuagénaire super résistante, un journal médical anglais relatait la semaine dernière le cas extraordinaire de Joe Cameron qui, après une opération chirurgicale lourde, n'a signifié aucune douleur à son équipe médicale. Intrigués, les médecins ont alors regardé son passé médical et n'ont trouvé aucune trace de gêne ou de plainte après de nombreuses opérations subies dans sa vie. Et après analyse, il s'avère que cette Anglaise est tout bonnement immunisée à la douleur mais aussi au stress grâce à une mutation génétique très rare. Cette découverte servira de piste pour de nouveaux antidouleurs, déclarent les chercheurs.